Ce matin, j'avais prévu initialement un partage, une histoire avec Jésus et Pierre qui marchent sur l'eau, avec des images, des illustrations adaptées aux enfants. Puis comme Paul m'a dit qu'il n'y aurait pas forcément d'enfants ce matin, finalement j'ai choisi de vous parler de Daniel. Mais comme je savais aussi qu'il y avait mes enfants à moi, je me suis dit, on va quand même donner quelques illustrations et j'espère que tout le monde pourra en avoir pour soi. Et Daniel, alors voilà un homme exemplaire tant par son courage, sa droiture, son amour pour Dieu et sa fidélité. Alors surtout déjà, avant toute chose, on va poser le contexte et on commence avec un peu d'histoire. Alors c'est un peu trop tôt, vous pouvez juste mettre... ouais, en fait ça va très bien, excusez-moi qui dois avancer avec là. Voilà, c'est bon, excellent. Alors pour poser un petit peu le contexte, un peu d'histoire, avec cette question qui vient ici. De nouveau, ça a été trop long. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un empire? Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un empire? Quelle drôle de question. Nous sommes ici dans une sale période pour Israël. Fini les conquêtes, les victoires, les gloires. Dieu ne conduit plus son peuple dans la réussite, car celui-ci est devenu rebelle à lui. En effet, au lieu d'aimer son Dieu, qui lui a fait tant de grâces, qui lui a fait tant de faveurs, et au lieu de l'écouter, eh bien le peuple a décidé de le rejeter, et même d'adorer de faux dieux, ce qui était une bien mauvaise idée. Nous sommes en 722 avant Jésus-Christ. Le royaume de Samarie, c'est-à-dire les 10 tribus du nord d'Israël, tombe sous un terrible fléau redoutable et cruel. L'Empire attaque. Il s'agit du premier empire bien connu de l'époque, qui est l'empire d'Assyrie. Exactement, les Assyriens. Alors, j'ai une petite carte ici. On voit cet empire immense qui s'étend depuis l'Égypte jusqu'en Perse. C'est ainsi que les 10 tribus du nord d'Israël font les frais de cette invasion avec une terrible déportation des Israélites. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur cette opération. Je lis 2 Rois 17, 6. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Calakh, sur le Cabor, fleuve de Gozan, dans la ville des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël chèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, et parce qu'ils craignaient d'autres dieux. Au sud d'Israël, il ne reste plus que 2 tribus. Lesquelles? Juda et Benjamin. Elles forment ensemble le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale. Oh, ils ne faisaient pas les malins. Ils ont peur et doivent accepter la suzeraineté de la Syrie. 100 ans plus tard, moins 630, sous le règne de Josias, Juda reprend un petit peu une certaine indépendance. Mais malheureusement, un nouvel empire monte en force et en puissance, et qui était plus fort que la Syrie. Quel est ce deuxième empire? C'est l'empire de Babylone, exactement. L'empire de Babylone que voici. Entre ces deux empires, nous ne saurions dire lequel était le pire. Nous sommes maintenant vers moins 600. À Jérusalem, personne n'est tranquille. La tension monte. Il faut dire que les Babyloniens ne sont pas des tendres. Et on a entendu dire que l'armée babylonienne se trouvait justement dans la région. Un jour ou une nuit, on voit depuis les remparts de Jérusalem une scène d'épouvante. Voilà que des troupes armées arrivent. Une immense armée de milliers de soldats s'approche pour assiéger la ville de Jérusalem. On peut imaginer la scène. C'était la panique. Le roi qui menait cette armée était méchant, cruel, sans pitié. Il s'appelait Nebuchadnezzar. Ou bien si vous voulez rajouter une syllabe, Nabucodonosor. C'est possible. La Bible décrit cette situation en 2 Rois 24, 10 à 14 comme ceci. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs, tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés. Avec tous les charpentiers et les serruriers, il ne resta que le peuple pauvre du pays. Ça, c'était le verset 14. Quand on lit cela, et qu'on réalise un petit peu la situation, on est bien content de n'avoir jamais connu un pareil sort. Combien de captifs ? 10 000 personnes. Et pour les amener où ? À Babylone. Quelle distance ? Eh bien, on estime à 1200 kilomètres. Pour se donner une idée, en ligne droite, c'est d'ici jusqu'au Portugal. Sauf que il n'y avait pas d'EasyJet. C'était 2 pieds par personne. Et on pouvait peut-être estimer à 2 mois de marche. Pourquoi ? Mais pourquoi Dieu a-t-il permis ça pour son peuple ? Est-ce que Dieu avait finalement lui-même perdu la bataille contre le roi le plus puissant du monde de l'époque ? Non, il s'agit ici d'un jugement de Dieu. Un jugement, tout comme pour le Nord, le problème était le même. Le peuple s'est détourné de Dieu. Il l'a rejeté et a préféré se tourner vers d'autres dieux. Dans cette atmosphère nauséabonde, plusieurs prophètes ont essayé d'avertir les responsables de Juda. Les rois, ne faites pas ça, repentez-vous. Mais malheureusement, sans succès. Et c'est ainsi que Dieu, dans sa souveraineté, a suscité des rois étrangers pour juger son peuple méchant et rebelle. Dans les prisonniers se trouvait un jeune homme qui ne méritait pas tout cela. Lui, il n'avait pas rejeté Dieu, il lui était resté fidèle. Il s'agit de Daniel, notre héros. Daniel était jeune. On pense qu'il avait à ce moment 15-16 ans. C'est intéressant de réaliser que même s'il faisait partie d'un reste de personnes restées fidèles à Dieu, il subissait le même sort que les autres. Ainsi, dans son malheur, peut-être s'est-il posé la question « Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait ? Où est la justice de Dieu ?» Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de vous sentir abandonné de Dieu ? Vous avez des soucis ? Des difficultés, vous demandez de l'aide à Dieu, puis il ne répond pas. Ne serait-ce finalement pas le Dieu que je croyais ? Me suis-je trompé sur sa personne, sur sa fidélité, voire ses capacités ? Le problème, c'est notre vision très limitée. Dieu, lui, il voit large, il voit loin et il voit dans le temps. Mais nous, nous sommes cloisonnés dans notre espace-temps. Pour illustrer cela, voici une photo que j'ai prise un jour, alors que j'étais jeune et sportif, depuis le Mouchrot, au-dessus de Grenoble. Alors même si cette photo ne casse pas des briques au niveau de la qualité, elle est intéressante parce qu'elle montre que depuis ce point de vue en altitude, on ne voit pas la même chose qu'en bas. Nous, nous sommes dans la vallée. Nous ne voyons que ce qui est devant nous, au moment présent. Mais Dieu, lui, il est au-dessus de nous. Il est souverain et il a une vue d'ensemble de nos vies. Il voit le futur, il voit même la fin de toute chose. Il voit au travers du brouillard, au travers des montagnes, et cela jusqu'à l'infini. Aussi, si nous traversons une épreuve, il est trop tôt pour dire Dieu nous a abandonnés. Car il est là. Il est réellement près de nous, il nous voit et il se permet de nous faire patienter dans notre misère sans nous avoir abandonnés pour autant. Mais il nous demande une chose, de tenir ferme, de rester près de lui, dans sa parole et de croire en lui. Encourageons-nous. Dans sa situation, Daniel, lui, il aurait pu baisser les bras, perdre la foi et finalement se rebeller lui-même contre Dieu en disant « Ah ben, si c'est comme ça, eh ben, ça ne vaut pas la peine. » Cependant, ce jeune homme est resté fidèle et c'est impressionnant. Nous allons voir comment. Daniel, un homme fidèle malgré tout. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire dans Daniel, chapitre 1, versets 1 à 7. Je vais lire dans la version Louis II, Daniel, chapitre 1, verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui de Abednego. Quelque temps plus tard à Babylone, on voit que le roi Nebuchadnezzar veut intelligemment profiter des richesses de son butin. Oui, parce que dans les prisonniers, il pourrait se trouver des jeunes gens de qualité qui pourraient le servir dans son palais. Il faudra les former, leur apprendre la langue du pays, les coutumes, et c'est Aspenas, le chef du personnel, qui les sélectionnera et qui dirigera ses opérations. Parmi tous ces jeunes gens, qui est-ce qu'on retrouve? Comme on a lu, nous retrouvons Daniel et ses 3 amis, c'est-à-dire Anania, Michaël et Azaria. Alors bien sûr, pour entrer dans le bain, nos 4 amis doivent recevoir des nouveaux prénoms babyloniens, lesquels Shadrach, Meshach, Abednego et Belshazzar pour Daniel. Et voilà qu'on apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que tous ces jeunes gens sélectionnés vont recevoir chaque jour une portion du vin et des plats du roi, comme si cela faisait partie de la formation. Waouh ! Quelle aubaine pour tous ces jeunes gens qui n'auront plus à manger la nourriture des prisonniers. Cependant, est-ce que Daniel est réellement satisfait ? Non, apparemment pas. Car cette nourriture était pour lui un problème compromettant, ce que nous allons voir par la suite, et nous lisons la suite du texte, versets 8 à 14. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et de Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Question. Peut-on se souiller avec de la nourriture comme nous l'avons vu? Aujourd'hui, on ne dirait pas ça, surtout dans notre monde, où le péché n'a plus de signification et où le respect de Dieu n'existe plus. La Bible parle de souillure pour certains péchés, notamment dans le domaine de l'adultère, le domaine spirituel avec l'adoration de faux dieux et l'évocation des esprits. Mais finalement aussi avec toutes sortes de péchés qui salissent le cœur de l'homme face à la sainteté de Dieu. Dans le contexte de Daniel, il faut savoir que ces viandes du palais pouvaient être pour les Juifs impures, ayant été offertes préalablement en sacrifice aux idoles et aux faux dieux. Du coup, en mangeant de ces viandes, Daniel risquerait de s'associer à ces pratiques idolâtres et finalement devenir lui-même coupable envers Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Daniel voulait respecter la loi de son Dieu et lui rester fidèle, lui et ses trois compagnons. Mais en tant que captif, est-il en position de force pour refuser l'ordre du roi? Il pouvait en tout cas être mis directement, instantanément à mort. C'était très dangereux. Mais pour Daniel, il n'y avait pas de compromis. Lui, il veut rester fidèle à son Dieu à tout prix. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tous les autres jeunes profitent bien sûr de la situation. Ils ne se privent pas. Ah, ces mets succulents du roi devaient faire envie à Daniel et à ses amis. Et devant le refus étrange et anormal, on peut aussi imaginer qu'ils devaient les narguer, faire pression, se moquer peut-être. Car nos amis se contentaient de légumes, d'eau, alors que les autres mangeaient gracieusement les succulents plats du roi. Mais qu'est-ce qu'il leur prend de refuser un tel festin pour vos misérables légumes? Or, ce qui est important pour Daniel, ce n'était pas ce que faisaient les autres ou ce que pensaient les autres. Ce qui était important pour lui, c'était sa relation personnelle avec son Dieu. Et c'est ainsi qu'il choisit le plus aberrant aux yeux des hommes, mais le plus précieux aux yeux de Dieu. Sommes-nous prêts à en faire de même? Vous, les jeunes qui êtes ici, qui connaissez ce combat journalier de la comparaison, du regard des autres et de se sentir jugé et obligé de faire comme les autres, ô combien cela peut être difficile de dire non, surtout dans notre société aujourd'hui. Je pense que nous avons déjà tous été confrontés à ce genre de dilemme. La pression des copains, le regard des autres, la médisance dans le dos, les moqueries, l'incompréhension, et tout cela avec le risque de se laisser embarquer dans de mauvaises choses. Jusqu'où sommes-nous capables de rester fidèles à Dieu? Savons-nous devant les autres dire non et prendre position pour lui? Où sommes-nous tentés de faire des compromis, jeunes ou moins jeunes? J'aime bien l'exemple de Daniel, parce que pour tenir ferme, il va s'entourer d'amis, de vrais, qui aiment et qui avaient la même foi pour avancer dans la même direction. Et je crois que pour nous aider à rester fidèles à notre Dieu, il est bon de choisir ses amis, qui ont des mêmes convictions que nous. Et c'est une raison de l'importance de se retrouver entre chrétiens et de faire des liens comme dans la JAB, ou bien de faire bien sûr des camps où on se retrouve dans un cadre qui nous apprend à honorer notre Dieu. Je vous propose un autre exemple d'une situation compromettante qui ressemble un petit peu à celle de Daniel, mais une situation au travail pour les adultes. C'est l'occasion de grader. Génial, on me propose un poste intéressant de lequel je gagnerai beaucoup plus. C'est super parce que c'est exactement pour cela que je priais. Et ça correspond exactement aux besoins de ma famille. Waouh, c'est extraordinaire, c'est Dieu qui répond. Pourtant, il y a un détail qui me dérange un peu. Bien sûr, ce n'est qu'un détail, mais tout de même, dans ce nouveau poste, pour mener à bien mon travail, je comprends que finalement, je serai amené de temps en temps à tromper un peu les clients, à tricher, à mentir, même si c'est minime. Bien sûr, pour mes supérieurs, eux, ils n'appellent pas ça de la malhonnêteté. Mais pourtant, c'en est. Eh oui. Alors face à l'enjeu faramineux, vais-je baisser les yeux? Vais-je accepter le compromis? Est-ce que ma fidélité pour mes supérieurs vaut plus que celle pour mon Dieu? Est-ce que ce poste est finalement une vraie bénédiction ou une mauvaise? Ainsi, en toute situation notamment, si je ressens une forme de compromis, je crois qu'il est important de s'arrêter et de se poser ces questions. Pour Daniel, le compromis n'existait pas. La seule voie qu'il suivait, son objectif, sa priorité, c'était de rester fidèle à son Dieu. Alors malgré les risques, malgré les pressions, a-t-il choisi la bonne solution? Nous allons voir. Nous allons voir la suite. Un Dieu fidèle malgré tout. Un Dieu qui répond. Nous continuons notre lecture, versets 15 à 21, du chapitre 1 de Daniel. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'empoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans tous les lettres et dans toutes, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entraîna avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Dieu répond à notre fidélité. Comme on le voit ici, si je lui suis fidèle, si j'honore Dieu dans ma vie, je lui fais confiance, je lui fais de lui une priorité, eh bien je peux avoir l'assurance qu'il sera fidèle avec moi réciproquement et faire aussi une entière confiance à ses promesses. Car les promesses de Dieu sont pour ceux qui lui obéissent et qui placent leur confiance en lui. C'est ce que dit un verset qui nous a interpellés au camp l'été passé, qui est, on dit, la bonne température du chrétien, c'est-à-dire le psaume 37, 5. Vous le connaissez ? Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Simple, non ? Bien, pour que cette promesse soit mise en œuvre, je pense qu'il faut vraiment y croire, la prendre pour argent comptant, la rechercher, l'expérimenter et apprendre à faire entièrement confiance à notre Dieu. Pour terminer, il est juste peut-être de dire aussi que ce n'est pas parce que Dieu est fidèle que tout va toujours bien et qu'il n'y a jamais de combat dans notre vie. Nous ne voulons pas prêcher l'évangile de la prospérité. D'ailleurs, on le voit bien avec le livre de Daniel, c'est tout simple. Il y a des exemples que, quand on lit la suite, elle est truffée de difficultés. Tout est loin d'être rose et facile. La vie est remplie d'épreuves qu'on ne comprend pas, mais que Dieu permet pour notre croissance spirituelle. Dieu les voit, il les connaît. Il sait aussi ce que nous pouvons supporter. Il voit bien au-delà et il ne nous oubliera jamais. Alors que le Seigneur soit un encouragement pour chacun, qu'il vous bénisse.